Du Pays basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance ou leurs aventures dans les sites fameux pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Alfred Tonnelet. La vie de ce jeune Tourangeau de 27 ans va malheureusement s'arrêter quelques semaines après son séjour aux Pyrénées. Alfred Tonnelet ressentait-il cette prémonition lorsqu'il arrive à Luchon à l'été 1858 ? On pourrait le penser, tant il brûlait les étapes de sa vie. Des études brillantes au lycée Louis-le-Grand, la maîtrise de plusieurs langues, latin, grec, anglais, allemand, des connaissances approfondies en philosophie, en botanique, amateur d'art éminent, cultivé en musique et peinture. À son âge, il a déjà visité plusieurs pays d'Europe et fréquenté les Alpes. Il rejoint des amis à Luchon et fait d'abord avec eux quelques randonnées familiales, lac d'eau, lac vert, super bannière, pic de sauvegarde, Antécade. Il est littéralement séduit, happé par la montagne et s'engage alors avec frénésie dans une succession de conquêtes plus sérieuses. L'Aneto est la première du difficile pic de la Fourcanade. Puis, c'est un tour de piste impressionnant. Cirque de Gavarnie, Montperdu, Canyon d'Ordessa et retour à Luchon par les hautes vallées de l'Aragon et du Pordeaux. Il part ensuite pour Perpignan et la côte catalane en passant par l'Espagne. Fin août, il quitte Perpignan pour la Provence, puis regagne Tours où, victime de la typhoïde, il décède le 14 octobre. De ses notes de voyage, tenues au jour le jour, sera édité le livre « Trois mois dans les Pyrénées et dans le Midi » en 1858. Cet ouvrage nous restitue les détails de son périple et de ses ascensions dans un style direct, simple, teinté de quelques élans de prose poétique. Il a le mérite de nous faire découvrir des régions jusqu'ici inconnues, notamment en Espagne, un des plus grands livres du pyrénéisme pour l'historien Henri Beraldi. On me réveille à 5 heures. Le temps est radieux. Parti à 6 heures avec P, deux guides, Redonné Nat et Ribis. C'est la plus délicieuse matinée que nous ayons encore eue dans les montagnes. Cet air frais et vif, ces pentes noyées d'ombre, ce ciel pur où se perdent les sommets, ces promesses d'une belle journée allègent et rafraîchissent tout l'homme. Dans la vallée de la Pique, la fraîcheur matinale nous saisit. Nous ne sentons plus nos brides ni nos étriers. Nous sommes à l'hospice à 7h15, après une marche très modérée. Reparti à 8h25. Le chemin du port monte droit entre de grands murs de rochers presque perpendiculaires. Le pont de neige, à mi-chemin, est presque entièrement fondu depuis 10 jours. À droite, Sauvegarde, qui de loin paraît une croupe arrondie, se montre de près avec un sommet déchiqueté. On entre dans une espèce de bassin qui précède presque tous les passages dans les Pyrénées et qui, ici, est situé très haut. Sous Sauvegarde, dans une très belle enceinte, un assez grand lac d'un bleu foncé. Ce lac est précédé de 3 petits. Cette sortie de France est pleine de grandeur et de beauté sévère. À mesure qu'on monte, les crêtes à gauche deviennent de plus en plus abruptes et tourmentées. Un petit lacet très serré, tire-bouchon, et très raide grimpe le long d'une paroi de rochers qui descend jusqu'au lac et aboutit à une étroite ouverture, une vraie porte en haut du roc. Au-delà du passage sombre, voilà l'Espagne. Voilà la masse de la Maladeta étincelante sur son piédestal de roc désolé et le ravin profond qui nous en sépare. Nous mettons à peu près 3 quarts d'heure. Quelques endroits assez raides, mais ce n'est pas fatigant. Aborder la crête d'où l'on plonge sur les lacs. Le sommet est très allongé et légèrement incliné. 2 tours ou pyramides de quelques pierres construites par M. Leza en 1849 ou 1850. La Maladeta se présente, d'ici absolument détachée et sans entourage. Nous sommes séparés par une vallée désolée d'une nudité austère et farouche. une base de rochers grisâtres parsemés de petits sapins rabougris. Au-dessus, des plaques de neige, tachant des rocs éboulés qui couvrent les pentes et les larges glaciers sur le sommet écrasé que percent quelques crêtes. Rien que des tons tristes, gris et blancs. Désolation infinie, c'est vraiment le mont maudit. La lumière fauve et les enroulements de nuages lui vont encore mieux que la claire splendeur qui met à nu si crûment son horreur sauvage. À gauche, la Maladeta est accompagnée des glaciers d'Esbarence et de la Forcanade, charmante montagne qui élève sa double fourche orne. Taille élancée svelte, raie de neige, comme une écharpe en bandoulière. Quelque chose de gracieux et de virginal. Vraiment, si c'était une jeune fille, je crois que j'en deviendrais amoureux. L'idée me vient d'essayer de la gravir et de posséder sa virginité, car aucun pied humain n'a encore atteint son sommet. À droite, s'ouvre dans toute sa longueur la jolie vallée de Venasque, qu'on enfile jusqu'aux abaissements de la montagne et jusqu'à la plaine espagnole. On aperçoit le fort de Venasque comme une petite taupinière. Restez trois quarts d'heure sur le sommet. Redescendu rapidement, en 35 minutes, après avoir laissé nos noms sur le même papier où M. Leza avait inscrit le sien. À travers les mots, les regards, inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent d'Alfred Tonnelet. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées, inspirant tous mes récits ».